Merci beaucoup.
Alors Julien Luchaire est l'exemple même d'un homme qui
Parlez
a consacré.
Bien dans le micro.
On entend suffisamment?
Oui.
Donc d'un homme qui a consacré toute son existence à un rêve inabouti, le rêve après la Première Guerre mondiale, d'une organisation internationale mettant la culture au service de la paix. L'Institut international de coopération intellectuelle, dont il a été donc souvent question, qu'il contribue à créer au sein de la Société des Nations, et a dirigé pendant 5 ans, enfin l'Institut lui-même, pendant 5 ans, entre 1925-26 et 1930, pratiquement 5 ans, est une structure étrange qui a récemment été sauvée de l'oubli par Jean-Jacques Renolier, que nous avons entendu ce matin. Mon propos ici ne sera pas de même nature. Je repartirai pour l'essentiel des mémoires de Julien Luchaire, intitulé « Confession d'un Français moyen », il y a ici le second tome, afin d'y chercher quelques-unes des raisons de l'échec de cette institution où s'articule de manière unique enjeux politiques, culturels et littéraires. Le projet d'une institution vouée à la coopération intellectuelle s'inscrit-il dans l'histoire longue de ce que l'on a appelé à différentes époques la République des Lettres. Cette communauté d'esprit et de destin semblait en effet avoir jeté ses derniers feux à l'époque romantique, dernier grand mouvement littéraire d'essence européenne, avant que les milieux lettrés se replient sur une sociabilité plus autonome et plus étroitement nationale. À l'époque où triomphait le réalisme, le modèle de la République avait déjà fait place à celui du milieu auquel s'est attachée depuis la sociologie de la littérature. Paradoxalement, la réintroduction au centre du débat intellectuel de ce concept traditionnel, dont l'histoire avait déjà été reconstituée par Marc Fumaroli, par Françoise Vaquet ou par Hans Botz, est due à une sociologue proche de Bourdieu qui intitula en 1999 sa somme sur l'espace littéraire international « La République mondiale des lettres ». Cette formule, lancée donc par Pascal Casanova, soulève d'intéressantes questions. En dépit de ce que pourrait laisser entendre le titre de l'ouvrage, son objet n'est pas la mise en circulation des savoirs reliant un corps de savants et d'auteurs entre eux selon une logique qui serait indépendante des pouvoirs politiques ou religieux, mais l'analyse des indicateurs socio-économiques et symboliques qui régissent les échanges littéraires internationaux, ce qui n'est plus du tout la même chose. La République des lettres unissait des individus, pour l'essentiel européens, qui partageaient des habitudes et des valeurs. L'espace mondial d'aujourd'hui, depuis le milieu du XIXe siècle, s'impose plus ou moins violemment aux agents qui y participent, parfois en toute lucidité, le plus souvent sans saisir parfaitement les règles. Il est la traduction à l'échelle mondiale de l'autonomisation des milieux littéraires qui a été mise en évidence par Pierre Bourdieu. Là, donc, où des usages rassemblaient des lettrés en dépit de la barrière de la langue, des barrières de nationalité ou de religion, le système qui est décrit par Pascal Casanova fonctionne moins comme une république au sens politique du terme que comme un système économique organisé selon et autour de bourses des grandes capitales où la langue et l'héritage culturel jouent le rôle d'une sorte de monnaie d'échange plus ou moins bien cotée sur le marché mondial. Et à l'intérieur de ce système, les grands intermédiaires, c'est-à-dire les éditeurs, les critiques, les traducteurs ou les écrivains polyglottes, occupent une place centrale puisqu'ils assurent le va-et-vient entre les différentes aires linguistico-littéraires. Le glissement donc du vocabulaire politique au vocabulaire socio-économique suffit à montrer que la continuité suggérée par ce titre, La République mondiale des lettres, est en réalité trompeuse. J'aimerais ici montrer que l'aventure de l'Institut international de coopération intellectuelle permet de mieux comprendre ce qui sépare la République des lettres telle qu'elle s'est maintenue jusqu'au milieu du XIXe siècle et ce système socio-culturel qui a réglé depuis lors les échanges entre les littératures des différents pays. La singularité de cette aventure institutionnelle est en effet la suivante, avoir tenté une traduction politique quasi littérale de ce qui n'était jusqu'alors qu'une métaphore. La formule République des lettres reposait sur un paradoxe fécond, destiné à décrire un univers sans loi, sans pouvoir centralisé, traduisant un double idéal de liberté et d'égalité. Mais que se passe-t-il lorsque cette utopie s'incarne en une institution qui sera chargée de placer la culture au service d'idéaux politiques, diplomatiques ou humanitaires? Il me semble que plus qu'une résurgence d'une sorte de, sous une forme modernisée et quelque peu aseptisée de cette République des lettres, l'Institut, où l'on tenta de concrétiser l'utopie d'une sphère obéissant aux seules règles de l'entente intellectuelle, était voué à l'échec parce qu'il allait, dans ses principes affichés, à contre-courant des évolutions réelles du système littéraire international en place depuis le milieu ou la fin, disons, du XIXe siècle. J'aimerais toutefois ne pas finir sur une note trop pessimiste. La lecture des mémoires de Julien Luchaire laisse entrevoir, je tenterai de le montrer, quelques moments qui perpétue cette tradition d'une République des lettres plus authentique et cela au moment où le plus sombre de l'histoire de ce siècle, alors que le monde s'apprête à basculer dans la guerre. Alors, je ne reviens pas ici sur les multiples projets de cet Institut international de coopération intellectuelle, que Luchère donc a dirigé entre 1926 et 1930, des enquêtes, des forums, des rencontres au sujet de l'éducation, de la recherche scientifique, au sujet des archives ou des droits intellectuels, etc. Certaines de ces entreprises touchaient de près à l'élaboration d'une version modernisée de la République des Lettres, notamment une enquête sur les milieux littéraires ou la participation par exemple aussi au premier congrès international des gens de lettres en mai 1931. Quoi qu'il en soit, ça me semble un point important, de tels projets n'ont pas conduit à des réalisations d'envergure, on l'a dit. La littérature y tenait d'ailleurs moins de place que d'autres champs d'activité, notamment les relations scientifiques ou les questions d'ordre bibliographique, mais aussi certains secteurs qui étaient jugés plus stratégiques, notamment la presse, la radiodiffusion ou le cinéma auquel Julien Luchère accordait beaucoup d'importance. Pour rendre compte des obstacles auxquels se heurta ce projet de coopération, il importe de se reporter à ses mémoires que Luchère a publiées, texte tout à fait passionnant, dans lequel l'ancien directeur de cet institut a traduit les grandes intuitions de Paul Valéry sur une société des esprits, dont parlait Michel Jarty, sous une forme plus administrative et plus pratique. Ce récit de vie majuscule de Julien Luchère est d'autant plus important que l'auteur y place toute son existence sous le signe de l'idéal d'une communauté intellectuelle mondiale au service de valeurs humanistes. On y voit le programme d'une politique internationale entièrement réévaluée, mais à l'aune d'une vie qui est marquée par les deux guerres. Ces confessions d'un français moyen sont un texte tout à fait étrange à plus d'un titre. Tout d'abord, le choix de ce terme générique qui est emprunté à Saint-Augustin ou à Rousseau, alors que le récit s'inscrit très très clairement dans la tradition tout à fait classique des mémoires de diplomates, de hauts fonctionnaires ou autres grands serviteurs de l'État. Loin d'être isolées, ces confessions d'un français moyen s'inscrivent au croisement de deux sous-genres mémoriaux parfaitement répertoriés, les mémoires diplomatiques, on peut penser à François Charleroux, à François Seydoux, ou à Jean-François Poncet, par exemple, et les mémoires sur la construction, très important, de l'histoire ou l'histoire européenne elle-même. Et là aussi, les mémoires sont très nombreux, notamment les mémoires de Jean Monnet, jusqu'aux mémoires de Jacques Delors plus récemment. On pourrait de même le rapprocher de la très belle série que Louise Weiss a publiée, entreprise entre 1968 et 1980, ses Mémoires d'une Européenne, dans laquelle celle-ci tenta, comme Luchère d'ailleurs, d'esquisser une géopolitique culturelle large qui a été liée à l'histoire de la SDN et plus précisément à celle de l'Europe. Et Louise Weiss aurait été l'une de celles aussi qui aurait mérité sa place sur le programme de ce colloque. Deuxième difficulté soulevée par ces confessions, les dates de parution. 1943 pour le premier tome, et au beau milieu, en quelque sorte, de l'occupation, Julien Luchère évoque son enfance, ses années de formation, son entrée à l'ENS, puis sa première carrière en tant qu'universitaire à l'École française de Rome, à la faculté de lettres de Lyon au début du siècle, et enfin à l'université de Grenoble, d'où il crée le premier institut français à l'étranger. Il s'agit de Florence en 1907, et ça va être un modèle pour tous les autres instituts ensuite. Le second tome, qui couvre les années 1914, qui va des années de 1914 à 1950, ne paraît que de manière posthume en 1965, ceci alors que les faits dont il est question portent essentiellement sur l'entre-deux-guerres. Ses responsabilités au ministère de l'Instruction publique, son entrée à la Commission internationale de coopération intellectuelle, à la SDN, en 1922, puis son engagement dans l'Institut international de coopération intellectuelle, l'IICI, à partir de juillet 1925, jusqu'en juillet 1930, date à laquelle il doit démissionner et assister impuissant à la montée des conflits internationaux. Le très long délai de parution entre les deux volumes soulève certaines difficultés. La rupture chronologique se double d'une rupture de ton, puisque la guerre est vue à travers le prisme d'un échec personnel, mais à une distance quelque peu faussée. Julien Luchère est en effet trop éloigné des événements pour donner l'impression d'un récit qui sera en prise avec une actualité récente, d'autant plus qu'il a été responsable de l'Institut à la fin des années 20 et non durant les années 30, mais est en même temps trop proche d'eux pour bénéficier du recul que pourraient lui apporter les premiers travaux historiques sur la Seconde Guerre mondiale. L'auteur tente bien de compenser les faiblesses de son témoignage en tissant en bon mémorialiste les deux fils de son histoire personnelle et de celle du monde, et dès l'avant-propos, il insiste sur les coïncidences entre ces deux plans et met en valeur l'année 1930, date d'un changement dans son destin particulier. Il ajoute, il se trouve que la même date, ou à peu près, est à mon sens celle de la fin de l'après-guerre, ou du début de la préparation à la Deuxième Guerre mondiale, la deuxième avant-guerre. Que cette coupure ne soit faite tout à fait arbitrairement, bien que toute coupure dans l'histoire le soit plus ou moins, la dernière partie de ce livre le fera sans doute admettre. Ce qui m'est arrivé en 1930 n'a pas été sans rapport avec ce qui est arrivé au monde entier. que de modulation et de modalisation dans ces deux phrases introductives. Au moment où Julien Luchaire formule ce qui constitue le cœur même du pacte mémorial, à savoir cet entrecroisement du singulier et du collectif, il ne peut s'empêcher d'en souligner le caractère arbitraire, fragilisant d'autant plus son projet de vie majuscule. Certes, sa démission de l'Institut survient l'année où Hitler gagne en septembre d'importantes élections et dirige le deuxième parti au Reichstag, mais le vrai tournant historique, on le sait bien, se situe plutôt en janvier 1933. Et quelle que soit la date choisie, l'entrée dans ce que Julien Luchaire nomme la deuxième avant-guerre se produit au moment où il revient à l'enseignement pour sa part. Il enseigne à l'école pratique des hautes études. Puis débute ensuite, au milieu des années 30, une carrière de dramaturge dans laquelle il a rencontré un certain succès. Et il n'occupe plus, de fait, qu'une place, une position très secondaire dans le jeu des relations internationales, voire inexistante. Les difficultés que soulève Confession d'un Français moyen contribuent, du coup, étrangement à l'intérêt de ce texte. À commencer par son titre, cette tentative maladroite d'adopter son éthos aux circonstances historiques. Le récit de Julien Luchaire s'inscrit dans un cadre bien particulier, qui est celui de ce courant d'écrit égo-historique. J'appelle ici texte égo-historique les textes où un individu décrit son parcours et son existence dans sa condition historique, les mémoires, journaux, carnets, etc. Donc un courant qui est provoqué par la défaite, suscité par la défaite de mai-juin 1940, qui a conduit de nombreuses personnalités, de nombreux écrivains, à adopter la posture mémoriale et à tirer le bilan de leur existence sous l'effet des événements. François Mauriac, Romain Rolland, Blaise Cendrars, Georges Bernanos, Georges Duhamel, beaucoup ont commencé des mémoires ou des textes ou des journaux à ce moment-là. C'est une vague d'écrits qui est issue donc de la défaite de 1940, qui est la première étape d'un renouveau historique du genre mémorial suite à la Seconde Guerre mondiale, renouveau qui va culminer avec les mémoires de guerre du général de Gaulle, qui vont se publier, le dernier tome va être publié en 1959, puis Le miroir des limbes de Malraux, qui va être publié entre 1967 et 1976, et qui est vraiment l'acmé de ce renouveau. Julien Luchaire donc n'échappe pas à ce contexte et il rédige lui aussi le premier tome de ses mémoires comme pour faire œuvre de repentance collective, d'examen de conscience. La situation d'humiliation nationale explique que parmi les différentes vertus morales que peut revendiquer un orateur, un mémorialiste, il est décidé de privilégier la modestie afin de se démarquer des institutions et des pouvoirs officiels. Le registre intimiste qu'induit ce terme « confession » joint à la revendication de médiocrité, mais en un sens positif, est néanmoins en complet décalage avec sa carrière de mémorialiste. C'est en tant que particulier qu'il prétend pouvoir juger de l'échec d'une politique culturelle internationale qui a été au service de la paix et dont il a été le responsable. Une telle contradiction témoigne d'un malaise tout à fait évident. L'avertissement du second tome pousse assez loin ce rejet d'exemplarité qu'exigent d'ordinaire ces récits de vie majuscule et de vie mémorable. Luchaire, qui repousse ce terme, cette catégorie de mémoire, y prétend écrire une autobiographie, c'est-à-dire raconter une vie qui serait, je le cite, dans l'essentiel, pareil à celle de beaucoup d'autres Français qui ont, tant bien que mal, traversé ces 40 bouleversantes années. Le récit qui suit est en complète contradiction, évidemment, avec ce pacte générique, et ce récit révèle parfaitement l'ambiguïté de l'auteur à l'égard de cette posture mémoriale elle-même. Julien Luchaire hésite entre son rôle de témoin historique et son désir de se dégager de toute responsabilité dans le cours des événements, ce qui n'est pas possible. L'ensemble du récit est ainsi partagé entre deux attitudes, le recul qu'impose l'obligation de dresser un bilan impartial des événements survenus et le repli sur son propre destin, notamment après le drame qu'a représenté la collaboration de son fils Jean Luchaire, qui nous est plus connu aujourd'hui que le père Julien Luchaire. Jean Luchaire a été, vous le savez, le directeur des Temps Nouveaux, le président de la coopération de la Corporation nationale de la presse française pendant la guerre, pendant l'occupation, et surtout l'un des amis les plus proches de l'ambassadeur Otto Abetz. Jean Luchaire, qui a été arrêté après la guerre et après son parcours à Sigmaringen, qui l'a conduit à Sigmaringen, arrêté avec sa fille Corinne, qui était une actrice importante, puis exécuté à la Libération. Confession d'un Français moyen est parcouru de mouvements si contradictoires qu'on a peine à y reconnaître une véritable dynamique. Il aurait été après tout possible, et à tout prendre beaucoup plus cohérent historiquement, afin de donner sens aux événements accomplis durant les années 20, d'adopter pour ligne d'horizon de ce récit, la création de l'UNESCO, puisque l'Institut a fonctionné jusqu'en juin, Jean-Jacques Renonier le rappelait, jusqu'en juin 1940, puis un an après la Libération, avant de disparaître au profit de ce nouvel organisme international, l'UNESCO. Julien Luchaire n'en fait rien, et il raconte à l'inverse une double faillite, personnelle et collective. Il déroge ainsi aux attendus du genre mémorial, qui impose à ses auteurs une forme d'assomption de soi, une adhésion complète à ses choix et à ses actions passées. Mais il y a en réalité plus étrange. C'est que la critique de l'utopie progressiste pour laquelle il s'était engagé avec tant de ferveur est à certains moments dans le récit évoquée sur un ton qui rappelle celui de Céline, et que Céline adopte lui-même dans l'Église. Vous connaissez cette pièce de théâtre écrite quelques années avant Voyage au bout de la nuit, en 1926, mais publiée un an après, en 1933, et où Céline traite en partie de l'expérience, de son expérience à la section d'hygiène de la SDN. Le troisième acte de cette pièce, l'Église, met en scène Judenzweck, qui est directeur du service des compromis, Mosaïque, qui est directeur des affaires transitoires, et Moïse, qui est directeur du service des indiscrétions. Tout cela est imaginaire, bien sûr. Tous trois juifs de 45 ans, habiles gestionnaires des affaires du monde, qu'ils règlent entre eux pendant que les commissions s'entre-déchirent, et l'on entend tout au long de la pièce les commissions dans les couloirs environnants, dans les salles environnantes. Dans cette attaque très violente du fonctionnement de la SDN, Céline met en scène son double, Bardamu, qui est jugé par Judenzweck à l'aide d'une très célèbre formule que Sartre a placée en épigraphe de la Nausée. C'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu. Passé maître de ce qu'il nomme alors le langage collectif, et la formule est très importante, Judenzweck incarne le fonctionnaire international modèle, manipulant avec cynisme des masses qu'il n'envisage que sur un plan qu'il juge strictement pragmatique. Alors j'y reviendrai peut-être un peu après, mais Céline a connu Julien Luchaire précisément dans le cadre de ses activités à la SDN. Et je cite cette formule de Judenzweck, « Les commissions, voyez-vous, mon ami, il parle à Bardamu, c'est comme l'amour, elles s'excitent, elles discutent comme elles peuvent, elles croient que ça pourra durer, et puis, à un moment donné, la fin est bienvenue, n'importe laquelle, heureux, béni celui qui la leur donne, après c'est la débâcle, on est tranquille. » Il explique son fonctionnement, on fait discuter les commissions jusqu'à plus soif, et ensuite on leur apporte la solution toute trouvée. C'est bien sûr Judenzweck et ses amis qui sont chargés de faire cela. Étrangement, Julien Luchaire emploie, au sujet des activités de l'Institut, un discours qui est parfois très proche de celui de Judenzweck, dont tout le pouvoir tient à cette maîtrise de la langue administrative, la langue collective. Lorsqu'il mentionne les entretiens sur Goethe, auxquels il assiste en tant que membre du comité des lettres et des arts, Luchaire dénonce cette succession de beaux discours. Et il écrit « On magnifia le grand compréhensif, le grand impartial, le grand indépendant ». On célébra le culte de l'esprit. En effet, là où il aurait fallu lancer des appels au secours, exhorter à la révolte de l'esprit contre la force, refuser de célébrer Goethe en pleine Allemagne hitlérienne, on se contenta de discours académiques. Les fonctionnaires de Genève, je cite Luchaire, étaient là qui veillaient à la moindre incartade. Si Luchaire ne partage évidemment pas l'antisémitisme de Céline, j'y reviendrai, comme lui, il constate l'existence d'un langage du collectif qui interdit toute emprise réelle sur le réel. Toute emprise directe sur le réel. Et il constate avec amertume que lui-même, à l'époque, était gagné par ce phénomène dont le personnage de Judenzweck, à l'inverse, fait la clé de sa politique. Et il écrit « J'en venais à comprendre comment les lecteurs des romans allégoriques du Moyen-Âge pouvaient croire que bel accueil et faux semblant, étaient des personnages réels. En fait, qu'y avait-il de plus profond et de plus efficient en nous, sinon ce par quoi nous sommes générosité, orgueil, les majuscules sont importantes, prudence, désir d'ordre, désir de justice, ambition, avidité. Je ne pouvais absolument plus voir dans les hommes avec qui je traitais que des facteurs favorables au contraire à l'œuvre collective. » Alors, il n'est absolument pas question, donc je le disais, de suggérer ou de soupçonner Luchaire d'antisémitisme, bien au contraire, il l'a montré pendant la guerre et son attitude a été tout à fait irréprochable. Mais reste que sa lucidité amère est si poussée qu'elle brouille quelque peu la lecture qu'on peut faire de ses confessions d'un Français moyen. Notons que Julien Luchaire n'écrit d'une certaine manière pas seul. L'écart entre les dates de publication des deux tomes que j'ai mentionnés s'explique, je le disais, par la collaboration et l'exécution de son fils Jean, dont le souvenir le hante. Il a été, d'ailleurs, il n'a pas pu le sauver, il a tenté de le faire, mais il n'a pas pu le sauver, bien sûr. Impossible de publier le second tome de ses mémoires trop tôt après la libération. Il s'agit de ne pas réveiller les vieilles rancœurs et la publication posthume convient beaucoup mieux à ce récit d'un homme dont l'attitude durant la guerre a été très juste, mais dont le récit, toutefois, est proche, sur certains points, de l'esprit auquel s'est rallié son fils. Non pas donc qu'il ait cautionné à aucun moment ou d'une manière ou d'une autre l'idéologie fasciste qui lui était vraiment parfaitement contraire, mais différents passages de ses mémoires témoignent d'une sorte d'aveuglement, comme si l'auteur n'avait pas perçu les enjeux politiques de ce qu'il vivait alors, notamment au sujet du fascisme italien, dont il était très proche, très lié à l'Italie, je l'ai évoqué au début, en raison de cette proximité avec l'Institut de Florence qu'il avait créé. Ce fascisme italien dont il livre le commentaire suivant, « Beaucoup de choses me choquaient dans la Nouvelle Italie, mais là, comme partout où je la rencontrais, j'appréciais la volonté de changement. Je travaillais à une révolution qui était, sur plus d'un point, à l'opposé du fascisme, mais le désir de créer un ordre nouveau, quel qu'il fût, était un terrain sur lequel on pouvait s'entendre, au moins provisoirement. » Lucher reconnaît bien avoir fait abstraction de sa répugnance pour le régime fasciste pour les besoins de la cause, des besoins pragmatiques, politiques. Croyant qu'il était possible de négocier de manière avantageuse avec un tel ennemi, et c'était tout à fait naïf, il le reconnaît a posteriori, mais il ajoute aussitôt, je le cite, « Comment blâmer un peuple de se discipliner et pour cela de se raidir ?» Des violences étaient inévitables et la curée qui suit d'ordinaire la prise de pouvoir, du pouvoir par des gens nouveaux, du moins au début. Comme son fils Jean Luchère, l'auteur affirme qu'il fallait, je le cite, faire table rase du passé en raison de l'insuffisance des vieux systèmes sociaux. Et quelques pages plus loin, toujours au sujet du fascisme italien, il écrit cette phrase tout à fait révélatrice, il me semble, « J'avais admis théoriquement la légitimité d'une discipline sévère et même s'il le fallait brutale, mais je voyais, sans parler d'autres victimes, que l'élite intellectuelle était sacrifiée. » L'unique garde-fou apporté, vous le voyez, et opposé à cette violence d'État, érigée en politique, en système, en principe politique, est ici la répression qui touche les intellectuels. Ce qui est une curieuse réaction corporatiste où toutes les autres victimes de tel régime sont évoquées, mais en incise, sous forme d'une sorte de dénégation. Certes, le mémorialiste condamne bien les régimes fascistes, mais c'est en ajoutant aussitôt, je le cite, « Fascisme et hitlérisme sont tenus par la majorité des nations ». Aujourd'hui, il parle du moment où il écrit, c'est-à-dire début des années 60, ce second tome, au moment où il le publie, parfois avec un fanatisme qui rappelle celui pour lequel on les détestait. Et il apporte cette nuance de taille. De grands changements me paraissaient nécessaires dans l'ordre social et politique. Le fascisme en était un. Un des aspects du fascisme m'était sympathique. Étrange donc aveuglement d'un mémorialiste qui se montrait inconscient des intrications de l'ordre politique et de l'ordre économique et croyait pouvoir prendre l'un tout en refusant l'autre. Une formule surprenante sous sa plume montre qu'en dépit de leur radicale opposition sur cette question notamment de l'antisémitisme qui était une ligne de fracture très forte entre eux, entre son fils et lui, Julien Lucher fut peut-être plus proche à certains égards de son fils Jean qu'il ne l'avoue dans ses mémoires. Alors qu'il mentionne une entrevue de Stresemann et Briand à Thoiry en 1926, le mémorialiste note « Ce que j'attendais, c'était l'apparition d'un esprit nouveau, condition nécessaire de l'ordre nouveau. » C'est la seconde occurrence de ce terme que je cite ici. Julien Lucher, Ordre Nouveau, il fait référence à un esprit de coopération internationale, mais qui, à la faveur de ce terme, croise les réflexions des non-conformistes des années 30, qui ont été très étudiées depuis, et dont on mesure aussi les dimensions fascistes de façon beaucoup plus claire aujourd'hui, rétrospectivement. C'est en quelque sorte incidemment qu'émerge la complexité des positions politiques de cet homme durant les années 30, qui sont réduites aujourd'hui souvent, rétrospectivement, à des positions binaires, trop binaires. Et Antoine Compagnon le sait, qui a montré cela à propos de Bernard Fay, où cette même complexité du parcours ne mérite pas d'être réduite à des oppositions trop binaires comme on a tendance à le faire. Ce que révèlent ces quelques bouffées politiques, c'est une réalité plus trouble que ne laisse entendre la langue de bois des institutions internationales, ce fameux langage collectif dont parlait Céline. Bien qu'il s'en défende, Julien Lucher est lui aussi travaillé par des mouvements nationalistes, ces mouvements, ces pulsions nationalistes, qui saisissent les Européens durant les années 30, et trahit en quelque sorte, mais inconsciemment, ou plus ou moins consciemment en tout cas, les principes qu'il défend officiellement dans le cadre de l'Institut. Étrangement, c'est à la suite de son départ de l'Institut, puis d'une tentative manquée pour être élu député dans les rangs du Parti radical, que Lucher crée et anime, mais d'une certaine manière par défaut, et c'est ça qui est intéressant, un espace qui est réellement proche de l'idéal d'une république des lettres. Et sa troisième femme, Antonia Zilberstein, qui s'appelait Antonina Valentin de son nom de plume, et qui est appelée dans le récit Tosia, qu'il a épousé en 1929, sa troisième femme a joué sur ce point un rôle tout à fait essentiel. Cette intellectuelle allemande d'origine polonaise, qui a été auteur en 1931 d'une très importante biographie de Stresemann, puis d'ouvrages consacrés à Heine ou à Léonard de Vinci, et surtout d'une brochure en 1940 sur les atrocités allemandes en Pologne, cet intellectuel donc a contribué à faire de la Villa des Ternes, dans laquelle elle vivait avec Julien Luchaire, ce que l'on pourrait appeler une enclave des lettres, plus qu'une république véritablement des lettres. Luchaire et Tosia y ont reçu des hommes politiques, Painlevé, Chautant, De Monzy, Pierre Laval aussi, puis petit à petit beaucoup d'écrivains, comme H.G. Wells, dont parlait Madame Racine, Stephen Zweig, Pirandello, Henri-René Lenormand, Thomas Mann, bien sûr, André Malraux et beaucoup d'autres. Tosia était liée à beaucoup d'intellectuels allemands, et avec la montée des périls, cette villa est devenue un lieu de refuge pour les exilés allemands de toute religion et de tout parti. Et Luchaire écrit dans ses mémoires, il pouvait trouver en d'autres maisons parisiennes, encore pas très nombreuses, un accueil cordial. Cependant, il s'y sentait, il parle de sa villa, de ces villas, encore étrangers de ces lieux parisiens, ce qui est une des pires peines quand on n'a plus de patrie. Tosia était leur compatriote d'adoption, et en moi-même, il sentait, du moins je le suppose, un homme qui ne songe guère qu'il est de son pays que lorsqu'un intérêt national est en jeu. C'est peut-être ici que s'éclairent les difficultés observées précédemment. Les impasses rencontrées dans le cadre de l'Institut étaient-elles dues à la seule nature politique et administrative de ces initiatives ? Et par conséquent à leur caractère un peu artificiel, forcé, au regard des exigences de la création littéraire. Pas uniquement, me semble-t-il, l'une des principales raisons tient à ces mutations dont Pascal Casanova, je le rappelais au début, a fait état dans la République mondiale des lettres. Et sur ce point, la politique de coopération menée par Julien Luchaire et ses collègues illustre, en dépit de la pureté morale de leurs intentions, les mutations irrémédiables de toute forme d'organisation intellectuelle supranationale au XXe siècle. Comme dans le cadre de la SDN où les programmes affichés sont sans cesse démentis par les politiques violemment nationalistes et nationales des membres de l'Institut, et où les modes de regroupement culturel obéissent à des logiques en réalité profondément nationales, les écrivains eux-mêmes, à cette époque, voient leur statut se réduire ou plutôt s'aligner sur une logique de nature idéologique. D'une certaine manière, les formes de sociabilité ne joue à l'époque un rôle pas moins important qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, à l'époque de la République des Lettres, mais elles obéissent à de tout autres règles, et c'est par exemple à titre d'intellectuel engagé que nombre d'écrivains de droite comme de gauche se regroupent durant l'entre-deux-guerres, et les incessants congrès, les pétitions, les appels, les articles qui jalonnent leur parcours ne relèvent plus de ces pratiques qui définissaient autrefois la République des Lettres. La métaphore politique, elle a, risque de nous égarer, en quelque sorte. Et de suggérer une sorte de fausse continuité. En se soumettant aux attentes politiques fort concrètes des différents partis ou courants entre lesquels ils se partagent, les intellectuels s'insèrent dans des réseaux qui sont tout à fait différents de cet univers immatériel, sans loi ni pouvoir, voués aux seules exigences de l'esprit et de la liberté dont rêvaient leurs prédécesseurs. En sorte que l'équivalent d'une République des lettres se trouve plutôt dans ces lieux, dans ces espaces qui sont construits, ces lieux d'exil, éphémères comme la Villa des Ternes de Julien Luchaire et de Tosia qui offre un très bel exemple en quelque sorte où les contraintes qu'impose la nécessité d'échapper au régime fasciste conduisent des écrivains et des intellectuels menacés à redécouvrir les vertus d'une solidarité liée à des valeurs spirituelles et intellectuelles authentiques. Alors je vais finir pour conclure en revenant une seconde sur le destin de Jean Luchaire qui est une figure idéale mais inachevée en quelque sorte de mémorialiste. On peut supposer que ses fonctions de journaliste, d'idéologue, d'intellectuel engagé à sa manière, et il l'a été très fortement, l'auraient certainement conduit à livrer son témoignage comme quantité d'autres collaborateurs juste au moment de leur enfermement, s'il n'avait pas été exécuté dès février 1946. Il me semble que les Confessions d'un Français moyen de Julien Luchaire ne peuvent se lire sans ses mémoires hypothétiques de Jean Luchaire, mais aussi sans Ma drôle de vie, que sa propre fille, la fille de Jean Luchaire, c'est-à-dire Corinne Luchaire, qui a été une brillante actrice durant l'entre-deux-guerres, qui était connue à l'époque, et qui avait suivi son père à Sigmaringen, donc mémoire qu'elle a fait paraître en 1949, un an avant sa mort. Ce sont ces trois textes, en quelque sorte, dont l'un hypothétique, qu'il faudrait pouvoir lire ensemble, il me semble qu'ils forment un tout. Un dernier point commun unit étrangement les deux hommes, le père et le fils. Jean, qui publia Une génération réaliste, avait travaillé avec Alexis Léger, alors secrétaire du Quai d'Orsay, à un projet d'Union européenne qui était présenté, selon Julien Luchaire, comme une réduction pratique du programme jugé trop vaste de l'Union universelle. pendant que donc le père travaillait sur cette union universelle, le fils préparait un projet d'union européenne. Initiative que donc le père Julien Luchaire commente en ces termes, « Je n'aimais pas ce projet, j'y voyais non pas une réduction, mais un renoncement dissimulé au principe de la grande vaste entreprise internationale. Je me méfiais de cette conception européenne. » Ironie du sort, ce jeune homme, Jean, a témoigné à ses débuts en politique de plus de lucidité que son propre père, mais évidemment, Jean Luchaire, l'Europe de Jean Luchaire est devenue très vite une Europe sous la coupe de l'Allemagne. Et donc le projet a tout de suite très rapidement dévié. Jean a d'ailleurs organisé par la suite, donc avec Otto Abetz, un congrès de jeunesse française et allemande à Rethel en août 1931, où ont été votées des motions auxquelles Julien Luchaire adhérait lui-même d'une certaine manière, sans le reconnaître tout à fait. Notamment cette motion selon laquelle le devoir européen, avant d'être politique, est intellectuel. Ce qui fait de Jean Luchaire, notamment lorsqu'il est devenu un collaborateur acharné par la suite, durant la guerre, le double inversé, en quelque sorte monstrueux de son père, dont il fut, en même temps, par certains aspects fort proches, sa part maudite, en quelque sorte. Je vous remercie.